Une heure de culture, d'actu, dans la bonne humeur, sur Transistor.
C'est quand ?
C'est en ce moment.
Alléluia, alléluia. 12 jours après l'ascension, il est déjà de retour au Transistor qui est aux cieux. Pour ce direct des fins dernières, dernier direct de l'année, on est en petits effectifs, très petits effectifs, mais on vous gâte, comme d'habitude avec cet en ce moment. On est sérieux, jusqu'à 14h25, heure à laquelle vous pourrez retrouver un jeu avec des couples qui feront leur entrée tout à l'heure en plateau, mais pour l'heure, c'est l'heure du journal. Un journal à deux voix avec Mathias. Bonjour Mathias.
Bonjour Clément. Le président de la République était chez nos confrères d'Europe 1 hier où il a réaffirmé que oui, ça allait mieux. Phrase qui s'impose désormais comme son argument de pré-campagne. Le président s'est présenté comme le seul recours à gauche et a dénoncé le programme d'une droite. Et je cite « Lisez ce qui est proposé. Au moment où l'économie reprend, dire qu'on va baisser les impôts des plus favorisés et augmenter la TVA, c'est injuste. » Le président a aussi annoncé qu'il ne céderait pas face à l'opposition que suscite la loi de la réforme du Code du travail, dite aussi « loi El Khomri ». Et c'est la mobilisation sociale qui est à l'honneur aujourd'hui, mobilisation sociale menée notamment par la CGT, la SNCF et la RATP. Une forte mobilisation est à prévoir aujourd'hui, même si cela ne devrait pas avoir trop d'impact sur le trafic SNCF et RATP. La manifestation à Paris est prévue à 14h, entre la place de l'école militaire dans le 7e arrondissement de Paris et la place d'Enfer-Rochereau dans le 14e. D'autres mouvements sont prévus dans toute la France, notamment Nantes, Rennes, qui avait été le théâtre d'affrontements violents la semaine dernière, Marseille et en Normandie, où le mouvement est très suivi, à Caen, Rouen, Le Havre, Évreux et Alençon. Les chauffeurs routiers menés par les syndicats Force Ouvrière et par la CGT ont aussi prévu plusieurs blocages dans toute la France. Sur l'A1, une opération escargot a débuté à 8h entre Dourges et Arras. Dans le Nord-Pas-de-Calais, plusieurs villes connaissent des blocages dans les nœuds, et la dans les nœuds de circulation importants ou des zones industrielles comme Boulogne-sur-Mer. C'est notamment la ville du Havre qui est la plus touchée avec le blocage du dépôt Total. En marge de la contestation, la préfecture de police de Paris a fait parler d'elle en empêchant certaines personnes d'aller manifester aujourd'hui en application du cadre de l'état d'urgence qui permet d'assigner à résidence une personne pendant un temps donné.
Et un petit point sur les déclarations du jour.
Oui, aujourd'hui sur France Inter, Nadine Morano, invitée de Léa Salamé, réagissait à l'interview du pape François qui considère qu'il faut parler des racines de l'Europe au pluriel et qu'il redoute la tonalité qui peut être triomphaliste ou vengeresse, voire coloniale. L'eurodéputé a déclaré « Le pape n'a pas une connaissance suffisante du fonctionnement de l'Europe », en relevant aussi son origine argentine. À la radio toujours, la présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse, est revenue sur l'annulation controversée du chanteur Black M à Verdun. Elle s'est dite opposée à un concert festif qui ne serait pas adapté à la commémoration, mais considère qu'on aurait dû appeler Black M à chanter la Marseillaise à Verdun en hommage aux soldats morts et aussi peut-être en mémoire de son grand-père tirailleur sénégalais.
Et un peu de culture pour finir.
Oui, car c'est aujourd'hui qu'est présenté à Cannes le dernier film de Pedro Almodovar, Julieta, qu'on attend avec impatience. Toute la croisette est en ébullition car après Tout sur ma mère en 99, Volver en 2006 et Les étreintes brisées en 2009, ce pourrait bien être la bonne pour le réalisateur espagnol.
Et l'actu radio alors ?
Oui, car hier nous avons appris que Pascale Clark quittait France Inter après quelques années déjà sous tension. Elle a déclaré au magazine Télérama qu'elle voulait se lancer dans une aventure numérique. Tiens, ça nous rappelle quelque chose. Pascale, si tu nous écoutes, tu es la bienvenue sur Transistor.
On passe à l'international maintenant pour la deuxième partie de ce journal. Et on commence avec les États-Unis où le spectacle des primaires continue, même si Donald Trump est seul en lice du côté républicain, et que la victoire d'Hillary Clinton sur Bernie Sanders semble inéluctable du côté démocrate. Les candidats continuent leur campagne en attendant d'avoir le nombre de délégués nécessaires pour l'investiture. Il ne manque plus que 143 délégués à la prétendante démocrate contre près d'1 millier à son rival Bernie Sanders. Mais l'enjeu pour ce dernier n'est plus de gagner la course, mais de peser sur le résultat lors de la convention. Il a déjà en partie réussi son pari dans la mesure où Hillary Clinton l'a rejoint sur un certain nombre de thématiques, comme un salaire minimum à $15 de l'heure. Toutefois, on sent bien que du côté démocrate, le temps n'est plus ni à la guerre de tranchées, ni à la guerre d'extermination que se sont livrés les républicains. En effet, Bernie Sanders, dans une interview à OPB, déclare qu'il fera tout pour empêcher Donald Trump de devenir président, et ce, quel que soit le résultat de la primaire.
Et puisqu'on parle d'élection présidentielle, il en est une qui inquiète ce dimanche en Europe.
Oui, c'est ce dimanche 22 mai que se déroulera le second tour de l'élection présidentielle autrichienne pour départager Alexander Van der Bellen, candidat écologiste, et Norbert Hofer, candidat du FPE, le parti d'extrême droite. Ce dernier est arrivé en tête avec 35% des voix au premier tour, contre 21% à son rival écologiste, le 24 avril dernier, au terme d'un scrutin dans lequel les deux grands partis de la démocratie autrichienne, les sociaux-démocrates d'une part, et les conservateurs d'autre part, ont été laminés. Ce second tour s'annonce extrêmement serré, mais Norbert Hofer fait tout de même figure de favori, alors que jusqu'à la fin de l'année 2015, le scrutin semblait plié en faveur du candidat écologiste. L'élection de ce candidat d'extrême droite à la tête de l'Autriche serait un séisme pour l'Union européenne, France en tête, à un an de notre élection présidentielle à nous, où Marine Le Pen a de fortes chances d'être présente au second tour.
Mais l'extrême droite est très bien implantée en Autriche.
Oui, et ce depuis le début des années 2000. Et surtout, fait moins connu, depuis juin 2015, le FPE gouverne la région du Burgenland avec, tenez-vous bien, les sociaux-démocrates. L'alliance apparaît contre nature, mais face à un contexte local très particulier, un contexte frontalier avec la Slovaquie et la Hongrie, les verrous idéologiques semblent avoir sauté.
Et au niveau européen, c'est l'indignation face à d'autres verrous idéologiques qui ont sauté.
Oui, c'est l'indignation après les propos de Boris Johnson, l'ancien maire conservateur de Londres, comparant l'Europe à Napoléon et à Hitler. À propos de l'Union européenne, celui-ci a en effet déclaré « Napoléon, Hitler, plusieurs personnages ont essayé de le faire, l'union du continent européen, et cela s'est terminé de manière tragique. L'Union européenne est une autre tentative avec des moyens différents. » Alors l'ancien maire de Londres, au bagout contestable, fait campagne pour la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne lors du référendum qui se tiendra le 23 juin prochain. Il s'oppose en cela au Premier ministre, David Cameron, à qui il pourrait succéder au 10 Downing Street en cas de victoire du oui.
Changement d'horizon avec le retrait annoncé des troupes françaises en Centrafrique.
Oui, François Hollande l'a annoncé, c'est la fin de l'opération Sangaris en Centrafrique, opération militaire lancée en décembre 2013. Dans ce conflit ethnique, qui se double d'un conflit religieux entre chrétiens et musulmans, la France est présente aujourd'hui avec près de 900 hommes sur le terrain. Il n'en restera bientôt plus que 300, a annoncé le président de la République, dont une centaine sous une direction européenne.
Et une note plus légère pour terminer peut-être ?
Oui, une note littéraire même, puisque la sud-coréenne Hong Kong a remporté le Man Booker Prize International pour son roman The Vegetarians. Et le résumé, tenez-vous bien, fait envie. C'est l'histoire d'une femme qui veut devenir une plante pour se sauver des côtés obscurs de l'être humain. Et c'est garanti bio, sans OGM, à l'image du café que nous allons prendre maintenant.
Alors, avant les au revoir, on a juste le temps de prendre un café et l'addition.
Alors, avant peut-être de commencer ce café, est-ce que vous avez envie de le lire, ce livre de Han Kong, Mathias, Jérémy peut-être.
Si oui. C'est garanti sans gluten, moi je fonce. Hein.
Mais est-ce qu'on peut le manger après le livre ?
Alors, la dépêche AFP le disait pas bizarrement. Bon, je sais pas pourquoi, parce que ce serait biodégradable jusqu'au bout.
Oui.
Bon, enfin, c'est pas grave. C'est maintenant, de toute façon, on va changer de sujet. C'est l'heure du café des éditorialistes et on va commencer par l'édito politique de Jérémy après un jingle.
Française, français. Le débat d'aujourd'hui portera sur la politique. La politique, comment, pourquoi et quand.
Moi, président de la République,
au revoir.
Alors Jérémy, qu'est-ce qui retient ton attention dans la vie politique ces jours-ci ?
Mais justement Clément, justement, je suis venu à ce micro aujourd'hui pour faire une confession. Il n'y a rien, mais alors rien du tout qui retienne mon attention dans la vie politique ces derniers mois. Je me suis réveillé ce matin dans mon grand lit froid en faisant ce constat terrible. Je crois que j'ai cessé de m'intéresser au grand barnum politicard. Pourtant, n'allez pas croire, hein, je ne suis pas un perdreau de l'année, loin de là. Il y a longtemps que la politique compte pour moi, et par politique, je ne parle pas que des polémiques à la petite semaine, des concours de petites petites phrases répandues avec délectation par les plus minables des politiciens, nourries au bon grain de la com' moderne. Non, non, on ne me la fait pas à moi, je sais voir plus loin que tout cela. Combien de petits déjeuners j'ai pu passer à contempler avec fascination public Sénat, où l'on s'écharpait sur des amendements absolument imbitables proposés à la loi de finances. Combien d'heures à m'abîmer dans la lecture méticuleuse et passionnée des pages opinion du Monde ou du Figaro, à observer les lignes de fracture idéologique, l'authentique débat d'idées, arguments contre arguments, les positions et les postures qui se font et qui se défont dans la fraîcheur immaculée des pages de nos grands quotidiens nationaux. Combien d'obscurs troisième couteaux de la vie politique dont je pouvais citer les noms et même reconnaître les visages sur BFM TV. Mon Dieu, je dois le confesser, il m'est même arrivé de lire les motions proposées lors des congrès du Parti Socialiste. Mais là, ces derniers temps, rien, plus rien du tout.
Ah mais tu nous inquiètes beaucoup, Jérémy, qu'est-ce qui t'arrive ?
Eh ben, je contemple la vie politique sans hostilité, hein, mais avec indifférence. Avec un regard dénué de désir, comme le regard amène mais sans passion qu'on jette sur l'amante qu'on a aimée trop longtemps. À quoi bon tout cela après tout ? Alors oui, je sais bien ce que vous allez me dire. 2016 est une année de transition, gna 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 gna. Tout cela va regagner en intérêt à l'approche de la campagne pour la présidentielle, etc. etc. Je connais ces discours et je sais bien que moi-même, probablement, je vais retomber dans mes mauvais penchants à ce moment-là, car on ne se refait pas. Mais je crois qu'on a atteint un point de non-retour. Et je redoute que, même en 2017, le soufflet retombe bien vite. Alors, je sais bien, il y a des solutions pour retrouver son souffle. Par exemple, prendre de l'altitude. Vous l'avez entendu comme moi, c'est exactement ce qu'a fait Arnaud Montebourg hier sur le mont Beuvray, 821 mètres. De là-haut, il paraît qu'on domine les plateaux du Morvan et que c'est splendide. Et Arnaud, comme l'appellent ses partisans, car figurez-vous que même Arnaud Montebourg a des partisans, ce qui est de quoi rassurer même ceux d'entre nous qui se sentent délaissés, Arnaud donc a lancé un vibrant appel. Et alors, je le dis sans ironie, hein, c'est vrai que ça avait de la gueule cet appel du mont Beuvray. Une fraîcheur bienvenue. Bah oui, un homme politique de gauche qui assume le fait d'être de gauche, qui cite Bourdieu et Naomi Klein, Romain Gary et même Chevènement, il faut admettre que ça nous manquait un peu.
Et bah voilà Jérémy, Arnaud Montebourg te fait reprendre le goût à la politique, c'est bien ça.
Mais non Clément, tu n'y es pas du tout. Ah. C'est même exactement le contraire. Bah, le problème, c'est que tout ça était sans doute un peu trop lisse pour être honnête quand même, faut se l'avouer. Il sentait un peu le réchauffer, le discours d'Arnaud Montebourg. Vous n'avez pas trouvé ? Il y a de la carrure, ça oui, c'est certain, on ne peut pas le contester. Il y a un enthousiasme. Mais bon, ces dernières années, depuis 2012, on a eu l'impression d'en entendre tellement des discours qui nous promettaient un retour aux valeurs sociales, trop longtemps délaissées. Alors, c'est pas tant qu'on se méfie. La méfiance à l'égard de la gauche, ça maintenant on connaît, on est habitué. Il y a longtemps que le peuple de gauche est méfiant à l'égard des dirigeants qui prétendent l'incarner et le représenter. De ce point de vue, rien n'a changé. Mais c'est surtout que ça ne prend plus vraiment. On finit par vouloir chercher des sensations plus fortes que ces fades bouillonnements sous vide que les hommes politiques de gauche nous proposent. Alors finalement, le souffle, quand il en reste, il est ailleurs. Pas à gauche, plus à gauche, non. Et j'avoue que les tentatives de grand soir un peu mièvre qui affleurent ici ou là, la nuit debout et tout le reste, ça ne me fait pas rêver non plus. Ça aussi, c'est du déjà vu. On a déjà donné les bonnes intentions, c'est mort-né. François Hollande en Bourget, c'était plein de bonnes intentions. Je me sens là. Je suis tellement là que j'ai l'impression d'être né sous Edgar Faure. Alors parfois, je me prends à rêver à des remèdes plus radicaux. Non, pas le grand soir, pas même le Francite ou l'interdiction des CDD. Juste l'indifférence. Laissons-la s'étriper entre eux, laissons-la tripoter les femmes, marchander les postes et faire des grands discours pleins de vent. Détournons le regard. C'est de nous, c'est de nos regards braqués vers eux qu'ils se nourrissent, qu'ils s'amusent dans leur coin, qu'ils préparent leur petite présidentielle avec leurs gros sabots. Qu'est-ce que ça peut nous coûter après tout, l'indifférence et le détachement ? Bien moins d'énergie que les bulletins de vote et la foi stupidement gâchée. La gauche peut mourir, disait Valls. Mais non, qu'elle vive au contraire. Mais sans nous. Elle se passe bien de nous et nous nous passerons bien d'elle. Détournons le regard, fermons les yeux et laissons le manège tourner en silence. Arnaud Montebourg et tous les hommes providentiels iront nous chercher dès qu'ils auront besoin de nous. Jurez, crachez.
International maintenant pour un éditorial qui vous emmène au Venezuela. Parce qu'il n'y a pas qu'au Brésil où la situation inquiète en Amérique latine. On en parle moins, mais ce pays, le Venezuela, dirigé par Nicolas Maduro, héritier d'Hugo Chavez, fait face à une crise économique aux conséquences extrêmes. Ce pays d'Amérique latine aux réserves de pétrole fabuleuses a par le passé construit sa prospérité sur ses réserves d'hydrocarbures sans diversifier son économie et il souffre aujourd'hui très logiquement profondément de la chute des cours de l'or noir. Alors même que Nicolas Maduro est contesté par une opposition qui rêve de liquider l'héritage chaviste, le pays vit au gré des manifestations et contre-manifestations.
Un pays qui vit ou qui survit ?
Alors, dans un pays où 96% des devises proviennent de cette exportation de pétrole, la situation devient ubuesque. Comme les cours ont chuté, le pays n'exporte plus, sa monnaie ne vaut plus rien. L'inflation pourrait atteindre 720% en 2016. L'État ne fait plus travailler ses fonctionnaires que 2 jours par semaine et pourrait bientôt ne plus pouvoir payer l'émission de sa monnaie. Sans compter la population qui vit dans des conditions plus que difficiles, puisqu'outre les pénuries qui obligent les Vénézuéliens à des acrobaties pour se procurer de la nourriture, les plus pauvres ont de moins en moins les moyens de faire plusieurs repas par jour. Le Monde.fr a consacré il y a à peu près 2 semaines un photoreportage à ces familles et surtout à ce qu'elles mangent, et c'est malheureusement assez édifiant. Même les gens sans problème financier commencent à avoir du mal à se procurer assez de nourriture, ce qui pourrait à terme, on l'imagine très bien, déboucher sur une situation humanitaire très grave.
Et dans les hôpitaux aussi, c'est compliqué.
Oui, alors là, la situation sanitaire y est complètement catastrophique, d'après un reportage du New York Times, puisque les hôpitaux n'ont plus d'argent, et donc plus les moyens d'accueillir et de soigner les gens convenablement. Alors le reportage parle de gens qui, faute de place, s'assoient dans leur mare de sang, de médecins se lavant les mains avant une opération avec de l'eau gazeuse, d'un manque de matériel type pansements et compresses. Sur le site du ministère des Affaires étrangères, on lit également que 6000 personnes sont en attente d'une opération à cause d'une pénurie de produits anesthésiants. On comprend dès lors pourquoi la mortalité augmente et comment les simples accouchements peuvent dégénérer dans un pays, rappelons-le qui plus est, touché par l'épidémie du virus Zika. Alors à cette situation sanitaire explosive s'ajoute l'insécurité dans les villes. Caracas est devenue la ville la plus dangereuse du monde, hors zone de guerre, et fait face à une explosion des règlements de compte et des lynchages.
Et la situation politique est complètement bloquée.
Alors complètement je ne sais pas, mais en tout cas le climat n'est pas à l'apaisement, ça c'est sûr. Aux élections législatives du mois de décembre, l'opposition a remporté la majorité des sièges et n'a pas fait mystère de son ambition de déloger M. Maduro de son fauteuil présidentiel. Parlement et président sont, depuis, engagés dans un bras de fer, chacun s'appuyant sur les moyens qui sont les siens pour tenter d'invalider les décisions de l'autre. Après avoir tenté de raccourcir le mandat présidentiel par une réforme de la Constitution pour pousser M. Maduro vers la sortie, l'opposition de droite cherche maintenant à organiser un référendum révocatoire. Elle doit pour cela obtenir d'abord 4 millions de signatures, et si jamais le référendum est organisé, il faudra obtenir plus de voix que M. Maduro n'en a obtenu lors de son élection pour qu'il soit valide, c'est-à-dire plus de 7,5 millions de voix.
Ce référendum a-t-il une chance d'être organisé ?
Alors, Nicolas Maduro fera tout pour l'empêcher en tout cas. Ainsi, les signatures récoltées en vue de ce référendum doivent être vérifiées par une commission réputée proche de la présidence et une présidence qui nourrit qui plus est ses discours du risque de coup d'État en référence à la destitution de Dilma Rousseff chez le voisin brésilien. Donc, quoi qu'il en soit, c'est une ambiance qui est très lourde aujourd'hui au Venezuela et on voit mal comment la situation, aussi bien politique qu'humanitaire, pourrait s'arranger à court terme. Alors, c'est fini pour cet édito. On va peut-être, comme on a un peu de temps avant la revue de presse, revenir sur vos propos à tous les deux. Jérémy, on a bien senti ton désenchantement.
Ah oui, c'est complètement ça, désenchantement.
Désenchantement complet, surtout après le changement, c'est maintenant de 2012.
Mais oui, c'est ça. Mon goût pour la politique vient de 2012 et enfin, tout ça s'est effrité. Déjà en 2013, c'était fini. Et là, mais c'est l'encéphalogramme plat, quoi. On sent bien qu'on n'arrivera pas à regagner un intérêt pour la gauche et pour les hommes qui prétendent l'incarner parce qu'ils n'ont rien à nous proposer. Ils ont épuisé leur stock de slogans foireux et d'idées à la con. Donc,
Et toi, Mathias, tu partages le diagnostic ?
Oui, je partage tout à fait le diagnostic, puisque moi aussi, je suis venu à la politique en 2012, et depuis, ça a été de mal en pis, de désenchantement. Surtout que, quand je vois ce qui se dessine en 2017, ça fait strictement pas bander, et c'est même le contraire.
Enfin, là, merci pour l'image.
Mais non, mais là, c'est clairement la demi-molle invertie, parce que... Parce que quand on voit ce qui se présente en 2000, enfin déjà les personnalités qui se présentent, enfin Juppé par exemple, mais moi c'est carrément l'anti, tout ce que je débecte en politique. Et là, lui il l'incarne. Et je sais que je me déplacerai pour aller voter, mais je sais pas pour qui.
Oui, et puis l'élection présidentielle s'annonce en plus très violente dans le contexte européen actuel, entre le référendum sur le Brexit, la situation en Autriche, ça n'augure pas vraiment de bon pour l'année prochaine.
Oui, non, ça augure pas un débat apaisé, ça va être le clash, le festival des petites phrases permanentes, et tout ça n'aboutira à rien qu'à des positions de plus en plus tranchées à mesure que l'élection va approcher. Ça va pas être intéressant du tout.
Mathias ?
Oui, il y en a une qui doit se réjouir et qui est dans son petit manoir en banlieue parisienne.
On sait qui c'est, on ne va peut-être pas citer son nom. Alors on a fini avec les éditos et on va continuer comme toujours avec la presse du jour et une revue de presse proposée aujourd'hui. Situation inédite dans l'histoire de Transistor, mesdames et messieurs, une revue de presse proposée par Mathias.
Voici la revue de presse. Bonjour Bruno Duvic.
Bonjour à tous.
Hyper revue de presse.
La revue de presse dans les journaux.
La revue de presse.
La revue de presse qui fait parler et qui vous fait réagir, c'est avec Natacha Polony.
Revue de presse française. Et on commence cette revue de presse avec...
Et oui, car la presse est en guerre, mesdames et messieurs. Arrière-goût de poudre ce matin que je m'apprête à vous livrer comme la tête de vos adversaires sur un plateau d'argent. Guerre politique d'abord, guerre de factions, guerre à la Game of Thrones. Car c'est l'actualité sociale qui fait la une de la presse. Mobilisation en tout genre avec la CGT et la SNCF en tête. Le Progrès de Lyon parle d'une chaude semaine sociale. La semaine du grand blocage s'interroge aujourd'hui en France. La tension monte chez La Croix. La CGT fait surtout la une, en quête d'un nouveau souffle qui passerait par une tentation de radicalisation pour les Échos et qui chercherait à se retrouver une légitimité idéologique et sociale selon le Figaro. La grogne sur tous les fronts, toujours au Figaro, front de guerre donc dans un climat de course à l'armement.
Et ce climat de course à l'armement, il attaque le président ?
Ah oui, car le Figaro fait sa une sur une comparaison de Hollande à une citadelle assiégée. Hollande, ce roi en fin de règne qui ne fait, je cite, « qu'exacerber les passions », selon l'éditorialiste Paul-Henri Dulimbert, président assiégé, fragilisé selon le quotidien, par les manifestations sociales et dans son propre camp. Arnaud Montebourg fait la une après sa montée du Mont Beuvray, un pas vers la candidature pour le Figaro. Guillaume Tabar met en garde, il lui faut prouver que, je cite, « le montebourgisme n'est pas qu'un anti-hollandisme ». Allez comprendre, moi j'ai pas compris. Montebourg, chef de faction provisoire ou chef de file à venir ? Libération, qui n'est pas avare de jeux de mots, fait de l'ancien ministre du redressement productif le candidat à la montée. À la montée du Mont-Beuvray. Enfin, je sais pas si vous avez compris. Là où, je cite l'article, « jadis, Vercingétorix unifiait les tribus gauloises ». Reste à savoir si ça prédit une fin en César ou en Brutus, je ne sais pas comment ça va se définir. « Guerre des barbares chez Libération », je change de registre, Libération qui fait sa une sur les scandales des abattoirs, avec le témoignage d'un ancien inspecteur vétérinaire, photo à l'appui et c'est sanglant. Guerre de religion maintenant, puisque vous n'aurez pas été sans savoir que le pape François a donné une interview exclusive au journal La Croix.
Et que dit le pape François dans cette interview exclusive au journal
Alors,
La Croix ?
Alors le pape François cherche à apaiser les tensions qui règnent au sein de l'Église, et notamment à Lyon. Le pape déclare ainsi que le cardinal Barbarin ne devrait pas démissionner. Moins consensuel toutefois est sa déclaration à propos de la laïcité, qu'il juge exagérée en France, notamment à cause de, je cite, « l'héritage des Lumières ».
Bon, et des Lumières bien sombres en tout cas en ce moment, non ?
Oui, et c'est Le Monde qui titre sur la guerre dans l'islam, dans son supplément, sur les conflits qui opposent sunnites et chiites. Un conflit aux mille visages, selon le quotidien. Portrait des pays arabes et de leur population dans l'analyse des conflits interreligieux, redoublés par une situation géopolitique désastreuse. Entre sunnites, chiites, alaouites, alévis, État islamique et Hezbollah, on assiste à une radicalisation des identités ethno-religieuses. Article peu réjouissant mais très éclairant. Un conflit intermusulman qui, selon Le Monde, n'a jamais été si global et si meurtrier. Aujourd'hui en France revient sur la vidéo diffusée par l'État islamique qui montrait un enfant présenté comme français, mis en scène comme bourreau. Le quotidien titre sur cette génération perdue, enfantée par Daesh, enfant monstrueux donc, signe d'un État terroriste qui ne recule devant rien. Je terminerai par une guerre un peu plus légère mais tout aussi sérieuse, la guerre des sexes.
Après cette bien triste affaire de Nibopin, c'est ça ?
Et non Clément, ah, bon. Car la presse a arrêté d'en parler, je crois que ça n'intéresse plus les journaux, l'affaire est passée, passons à autre chose. Mais La Croix revient sur la réforme de la justice présentée par le ministre de la Justice Urvoas. Le quotidien redoute que le divorce par consentement mutuel sans juge fasse du tort aux enfants. Car, selon l'article, qui dit divorce par consentement mutuel ne dit pas forcément relation pacifiée entre les ex-conjoints. Les enfants, victimes collatérales du divorce, s'interrogent le quotidien. Et La Croix prend position pour le juge, seul capable de faire face au rapport de force entre les ex-époux. Mais on sent quand même une petite rengaine.
Et pour terminer, une note positive peut-être ?
Oui, avec Libération qui propose un article sur l'affrontement entre pro-life et pro-choice dans le Missouri, état où seulement une seule clinique permet aux femmes d'avorter. L'article fait état d'une vague de contestation pro-life malgré le soutien général des Américains au droit à l'avortement. Et ce n'est pas la droite trumpisée qui va régler les choses, loin de là. Et promis, je fais une note positive, dans Libération toujours, avec une interview de la sociologue du droit Irène Théry qui a pris fait et cause pour le mariage et l'adoption des couples homosexuels. La sociologue qui a participé au documentaire La sociologue et l'ourson sorti récemment revient sur son parcours et son cheminement intellectuel sur le mariage homosexuel, cette réforme de civilisation comme elle l'appelle, qui pour elle a cependant un goût d'inachevé. Malgré tout, la sociologue déclare, je cite, « L'égalité des sexes est le moteur des changements de la famille, des évolutions sans conflit, ça serait pas mal, pour une fois. »
Et c'est sur cette note que se termine la revue de presse. On va maintenant passer au deuxième journal de cet après-midi, mais un journal consacré à la culture, présenté par Clémence après un jingle. Bonjour Clémence.
Bonjour Clément, bonjour à tous. Chères auditrices, chers auditeurs, bienvenue dans votre journal de la culture de ce mardi 17 mai 2016. Au programme aujourd'hui, du cinéma, évidemment, avec la 69e édition du Festival de Cannes, mais également un peu de littérature, le programme culturel de la semaine et surtout la polémique de l'annulation du concert de Black M à Verdun, qu'on évoquait déjà tout à l'heure. Alors commençons sans plus attendre par l'inévitable rubrique cinéma, avec la tenue du 11 au 12 mai du 69e Festival de Cannes sur la croisette du 11 au 22 mai.
J'ai vu Rémi qui paniquait.
Et merci Rémi. C'était pour vérifier que vous suiviez, évidemment. Bon, 49 films même, ont été sélectionnés pour la compétition, présidée par George Miller, qui a le rôle de jury. Bon, vous en avez certainement entendu parler, mais pour rappel, voici un petit panorama de la sélection officielle. Alors, parmi les 21 films en compétition pour la Palme d'Or, les cinéphiles retrouveront les derniers films de réalisateurs célèbres, comme I, Daniel Blake de Ken Loach, Giulietta de Pedro Almodovar, Juste la fin du monde de Xavier Dolan, La fille inconnue des frères Dardenne, Loving de Jeff Nicholls et The Last Face de Sean Penn. Ouf, oui, je peine à le prononcer. 4 films français sont également en course avec la palme, enfin pour la Palme d'Or. Personal Shopper d'Olivier Assayas, Mal de pierre de Nicole Garcia, Maloute de Bruno Dumont et enfin Rester vertical d'Alain Giraudy. Bon, on retient en particulier le très bon accueil ce dimanche de Mal de Pierre. Les pronostics vont bon train et certains internautes voient déjà Marion Cotillard décrocher un prix pour son interprétation du personnage de Gabriel. Alors, en matière de récompense, un communiqué de presse a relevé l'identité de celui qui recevra la Palme d'Or ce 22 mai. Il s'agit de l'acteur Jean-Pierre Léaud, grande figure de la nouvelle vague, révélée en 1959 dans Les 400 coups de François Truffaut. Et cinéma toujours, avec la révélation à Cannes de Thomas Piketty qui a annoncé mercredi dernier, et c'est une surprise, l'adaptation de son best-seller, Le Capital au XXIe siècle. Mais ne rigolez pas. En un documentaire long métrage, quand même, oui, un documentaire, de 2 heures maximum.
Un film d'action.
Non, un film d'amour. Un film d'amour.
un mélange entre Mad Men et Roméo et Juliette.
Mais alors, ne vous y trompez pas. L'adaptation du pavé de 900 pages ne sera pas une simple relecture du livre de Piketty, car on nous promet qu'au grand discours des figures de l'économie sur la répartition des richesses à travers le monde se mêleront des références à la pop culture, à Honoré de Balzac et à Homer Simpson. De quoi nous tenir éveillés. Bon, le producteur néo-zélandais Matthew Metcalf, à qui l'on doit déjà un certain nombre de documentaires, a affirmé de son côté que, pour le citer, ce documentaire sera à l'économie ce que An Inconvenient Truth a été pour le réchauffement climatique, un tournant qu'on ne pourra plus ignorer. Sortie prévue fin 2017.
Alors tu veux nous parler littérature maintenant ?
Tout à fait, littérature avec l'attribution surprise ce lundi 9 mai du prix Goncourt du premier roman à Joseph Andras pour son roman « De nos frères blessés » paru mercredi dernier chez Actes Sud. Roman historique centré sur la vie et l'engagement d'un jeune ouvrier communiste anticolonialiste rallié au FLN et exécuté pendant la guerre d'Algérie. Alors l'Académie Goncourt a donc créé la surprise en récompensant un roman qui ne figurait pas sur la liste des 4 finalistes et qui, par ailleurs, n'était pas encore sorti. Mais double rebondissement, car Joseph Andras a préféré refuser ce prix Goncourt en stipulant dans une lettre adressée à l'Académie, vendredi dernier, l'Académie Goncourt bien sûr, que, je le cite, « la littérature, telle que je l'entends en tant que lecteur et à présent auteur, veille de près à son indépendance et chemine à distance des podiums, des honneurs et des projecteurs ». Enfin, sortie imminente de La Dangereuse, l'autobiographie de la comédienne marocaine Loubna Abidar, l'actrice principale du film Much Loved, présentée à Cannes l'an dernier, et dans lequel elle jouait le rôle d'une prostituée. Ce rôle lui a valu plusieurs prix, mais l'a également forcé à venir se réfugier en France après avoir été victime d'agressions. L'ouvrage, publié chez Stock, paraîtra demain.
Alors on va avoir plein de choses à faire, plein de choses à lire et plein de choses à aller voir. Comment tu nous conseilles d'occuper notre semaine, Clémence ?
Eh bien Clémence, si tu en as marre de rédiger ton mémoire et que tu as envie de tout laisser tomber, je te propose d'aller faire un petit tour à Paris pour visiter la galerie des carrosses du château de Versailles. Alors cette galerie, qui se situe dans la grande écurie du roi, était fermée au public depuis 2017. 2007, pardon. Décidément.
Tu voyages dans le temps aujourd'hui.
Exactement. Bon, voilà aujourd'hui une semaine qu'elle a réouvert ses portes grâce au mécénat de la fondation d'entreprise Michelin. Il faut le noter.
Les carrosses, les roues, Michelin, tout ça.
Tout à fait, tout à fait. Récemment restaurée, la collection de carrosses est présentée dans un espace muséographique totalement revu. Et c'est l'occasion de découvrir de plus près ces voitures de grands apparats, comme les berlines du mariage de Napoléon Ier, le carrosse du sacre de Charles X, le char funèbre de Louis XVIII, mais aussi les petits carrosses de Marie-Antoinette.
On peut monter dedans.
Des enfants de Marie-Antoinette.
Est-ce qu'on peut monter dedans ?
On peut voir l'intérieur, mais pas monter dedans.
Ah, dommage. Moi qui voulais dommage, le char funèbre de Louis XVIII. Alors.
Ça fait son effet dans les rues de Lyon.
Bon, musique maintenant, musique et polémique d'ailleurs, puisque le rappeur Black M, membre du groupe Section d'Assaut, dont le dernier album Les yeux plus gros que le monde s'est vendu à 600 000 exemplaires, avait été invité à se produire lors de la commémoration de la bataille de Verdun le 29 mai 2016. Alors la décision aurait été prise collégialement, puisque personne n'en assume vraiment la responsabilité. Bon, on dit que le comité interministériel Verdun 2016 se serait réuni en avril dernier avec la commission du centenaire, des représentants de l'État ainsi que le département et ses collectivités. Mais de nombreuses voix, essentiellement d'extrême droite, se sont élevées, considérant la venue de Black M comme une insulte aux anciens combattants. En cause, une chanson du groupe de Section d'Assaut sortie en 2010, que vous connaissez peut-être, Désolé, où Black M désigne la France comme un pays koufar, pour le citer, un terme péjoratif désignant les mécréants en arabe. Alors jeudi après-midi, la mission du centenaire sollicitée pour participer à hauteur de 67 000 euros sur un coût global de 150 000 euros a refusé d'accorder sa subvention, ce qui a entraîné l'annulation du concert. Bon, évidemment, l'affaire ne s'arrête pas là et de nombreuses personnalités politiques de gauche ont rapidement dénoncé l'annulation du concert. L'ancien ministre de la Culture Jack Lang a déclaré qu'il ne fallait pas capituler devant l'idéologie frontiste samedi 14 mai sur France Inter. Le ministre de la Culture en titre est également intervenu samedi pour dénoncer un ordre moral nauséabond. Mais tout laisse à penser que la gauche lutte avant tout contre la victoire de ceux qui ont fait déprogrammer Black M plutôt qu'elle ne témoigne d'un véritable soutien à Black M et à son œuvre. Par ailleurs, on peut s'étonner de l'absence de traitement médiatique de l'avis d'une majorité de citoyens lambda qui se sont également opposés à la performance de Black M lors de la commémoration, sans que cette opposition s'inscrive dans une quelconque affiliation à un mouvement politique ou dans l'expression d'un racisme primaire. Donc le débat est saturé par une opposition gauche-extrême-droite et oublie en chemin ces citoyens lambda qui peuvent considérer, à tort ou à raison, qu'un tel type de musique n'est pas adéquat pour une commémoration. Voilà, c'est ce millefeuille polémique dont la première polémique se concentrait sur les paroles du groupe et la seconde sur les polémistes eux-mêmes, parce qu'ils sont d'extrême droite, n'a pas fini de parler de lui, et certains parlent même d'annuler l'annulation.
Eh bah, ça promet d'être mouvementé tout ça. Merci Clémence pour ce journal. Alors, vous le savez, chers auditeurs, Transistor est adepte des jeux en tout genre. Vous le savez si vous nous avez écoutés à la journée de la radio le 1er avril dernier, où nous avions rendu un hommage vibrant à Julien Lepers et à son question pour un champion. N'est-ce pas Rémi ?
Oui, oui, tout à fait, je peux m'en souvenir. Ouais.
Et aujourd'hui, c'est un autre jeu que l'on vous propose, un jeu d'amour, un jeu de couple, un jeu présenté aujourd'hui par un certain sexe, un jeu qui passe sur France 2 le midi. Est-ce que vous y êtes ? Bonjour à tous, vous êtes bien à l'écoute de Transistor. Wouh ! Bienvenue à tous dans notre grand jeu pour lequel on n'a pas trouvé de nom parce que c'est juste une parodie d'un jeu télévisé célèbre qui voit s'affronter des couples, le but étant de répondre juste à des questions posées sur son conjoint. Le principe de notre jeu est simplissime, deux couples s'affrontent, le but étant de répondre juste à des questions posées sur son conjoint. Et aujourd'hui, c'est une belle paire de couples que nous avons à ma gauche, Marie et Mathias. On peut les applaudir.
Bonjour sexe.
Bonjour sexe.
À ma droite, Clément et Clémence, ils étaient faits pour se rencontrer à la naissance.
Bonjour monsieur.
Bonjour sexe.
Ça jette un froid.
Tous les quatre espèrent remporter aujourd'hui le voyage que leur offre Transistor, car oui, vous le savez, dans ce jeu, on offre de splendides voyages aux couples qui gagnent. Cette semaine, c'est un séjour d'une semaine pour trois personnes dans un hôtel de grand standing avec vue sur les pistes à l'aéroport Saint-Exupéry. Et voilà, et on vous paye même le Renault Express avec chauffeur, si c'est pas magnifique. Bon alors, on va tout de suite se lancer dans le jeu, sans transition, comme on
Avant
dit dans
ce milieu.
Avant
de commencer, j'aimerais simplement dire que je suis très amoureuse de mon loulou, et que je suis très contente de participer
c'est
à cette
génial.
Émission.
Eh bien, d'ailleurs, justement, qu'est-ce que tu fais dans la vie, Clémence ?
Bah, moi, dans la vie, je suis conseillère en aromathérapie. Alors, je viens de Paris. Je suis descendue à Lyon voir une copine il y a de ça 6 mois et j'ai rencontré mon loulou d'amour.
D'accord, et du coup, vous êtes installés tous les deux chez sa copine ?
Chez ta copine.
Oui, je me suis installée. Non, je me suis installée.
Nous sommes dans mon appartement du 6e arrondissement.
Oui, quand même.
D'accord, d'accord.
Parce que ma copine est très gentille, mais on a besoin d'intimité.
Et Marie, alors
Alors, ben moi, avec Mathias, on se connaît depuis un peu plus longtemps que ça, quand même, parce que ça fait 10 ans que nous sommes mariés. Voilà, c'était nos noces de chêne, je crois, cette année. N'est-ce pas mon Mathias ?
Oh oui, ma Marie.
Eh ben dis donc, beaucoup d'amour sur ce plateau aujourd'hui, je me sens un petit peu seul. Et on va plus tarder à passer à la première question. Alors voilà, maintenant, mesdames, je vais vous poser des questions sur vous. Les questions seront posées à ces messieurs ensuite, et on verra si les réponses coïncident. Alors, premièrement, sa pire honte à vos côtés, c'était...
Mais... Alors oui, d'accord, c'est vrai que, on s'est rencontrés chez les scouts, et c'est vrai que... il y a de ça un peu longtemps, quand on s'est rencontrés. J'avais mes, enfin, vous voyez, mes, enfin, ce que les femmes ont là, une fois par mois. Bon,
je vous conseille la camomille à ces moments-là.
Ah,
ça fait du bien.
Et donc oui, il a fallu qu'il aille me chercher des, enfin, vous savez bien ce qu'on utilise dans ces cas-là. Et
les cups aussi, c'est très bien. Et puis c'est plus naturel quand même.
Et voilà, et j'étais derrière un buisson et j'ai voulu lui demander d'aller m'en chercher. Et en fait, il se trouve que c'était notre père, le prêtre, qui était là. Et voilà, je les ai confondus dans l'obscurité. Bon, voilà.
Et vous, Clémence ?
Moi, mon loulou est très stressé. Donc, oui, j'ai beau lui donner du thym et de la lavande, ça le calme pas trop. Donc, c'est vrai qu'il lui arrive souvent de s'énerver comme ça, pour rien, et d'avoir honte pour des broutilles, enfin.
Mais vous savez, Dieu peut remédier à ce genre de problème, je pense, en priant beaucoup.
Ouais, certainement, mais je préfère la camomille.
Oui, Kato et donc... Bobo, je suis bien tombée cette semaine.
Voilà, vous m'avez fait perdre le fil.
D'accord, eh bien c'est parfait.
On va tout de suite poser les questions
à ces messieurs. Alors Mathias, Clément, vous n'avez rien entendu bien évidemment car vous êtes sortis du studio en cachette sans que personne s'en rende compte pendant qu'elle répondait. Alors voilà, la première question était la suivante. Sa pire honte, enfin votre pire honte à ses côtés. Non, si, c'est celle-là.
Alors, pour ma part... je pense que c'est quelques jours après notre rencontre, nous étions en public et voilà, je voulais lui faire un cadeau en public. On était au restaurant, donc je me suis levé et j'ai tapé sur mon verre. Nous étions dans un restaurant assez chic dans le 6e arrondissement et j'ai voulu lui dédicacer en public un exemplaire de mon dernier livre sur ma vie, mon œuvre, mes rêves, essai sur l'interprétation des rêves, 27 euros chez Plon. Et j'ai bien senti que voilà, que la salle n'était pas au rendez-vous.
D'accord, eh bien c'est une mauvaise réponse parce que Clémence n'a pas répondu. Mathias.
Alors ma pire honte à côté de Marie, je crois que c'était il y a un mois de cela. Elle avait invité mes parents à venir manger et je dois avouer que son ragoût d'agneau était très mauvais et j'ai eu honte.
C'était pas ça non plus. Marie parlait de ses galipettes avec le curé derrière un buisson chez les scouts.
Mais je n'étais pas au courant.
Vous réglerez ça plus tard, on n'a pas le temps. Eh bien, on va tout de suite échanger les rôles, messieurs. La raison pour laquelle elle vous quitterait.
Je crois que si on n'arrive pas à avoir d'enfants, ce serait la seule raison.
Pour ma part... Oh, une raison de rupture, c'est ça que vous demandez.
Ouais.
Oui. Peut-être un désaccord sur la destination de vacances.
Mesdames, la question est la suivante. Pour quelle raison seriez-vous prêts à le quitter ?
Alors, si Mathias, que j'aime de tout mon cœur, ce Dieu l'a placé sur ma route, si Mathias se... changeait de religion pour devenir protestant. Ça ne serait plus possible.
Et c'est encore une fois une mauvaise réponse. Clémence.
Moi, je pense que ce serait le désamour. Je peux pas vivre sans amour.
Voilà. Ouais, bon, ta gueule.
Face à la consternation que suscite l'absence totale d'intellect de l'interviewer, on va tout de suite verser dans des questions auxquelles il est un peu plus simple de répondre. Bien. Mesdames, sa devise pourrait être « Un tien vaut mieux que de baleine, agrafeuse, Jean-François Pinton. »
Laurent Wauquiez.
Clémence.
Agrafeuse parce que en fait, il écrit beaucoup sur des feuilles volantes et il a tendance à perdre ses feuilles.
Messieurs, votre devise pourrait être un tien vaut mieux que deux baleines, agrafeuse, Jean-François Pinton.
Laurent Wauquiez.
C'est une bonne réponse.
Oui, mon Mathias.
Ah, le choix est difficile, mais je pense que je dirais agrafeuse parce que, enfin, vous savez, j'écris des livres, j'ai tendance à les rédiger manuscrits et bon, voilà, vous savez ce que c'est, les feuilles volantes.
Et c'est une bonne réponse aussi. Mouillez pas trop le micro, hein. Bien, nous continuons avec une question que je vais vous poser à vous, messieurs. La principale différence entre elle et un camion frigorifique.
Oh, elle est plus colorée.
Mathias. Concentrez-vous.
Elle est beaucoup plus chaleureuse.
C'est poétique. Mesdames, quelle est la différence, selon vous, entre vous et un camion frigorifique ?
Moi, le Seigneur m'a donné un cœur pour aimer.
Mais je pense exactement la même chose.
Et vous êtes toutes les deux aussi connes à côté de la plaque. Mais c'est pas grave, on vous garde quand même parce qu'il faut qu'on finisse cette émission.
Vous aussi, vous devriez prendre un peu de camomille. Vous avez l'air tendu.
Bien, alors on va maintenant une autre question, si vous permettez. Alors, bonjour à tous et bienvenue dans votre émission de cinéma. Attends, non, c'est pas la bonne case. Oui, quand il pense à Fernande, que se passe-t-il ?
Excusez-moi, c'est qui Fernande ? Non, parce que j'en ai pas entendu parler, ça m'inquiète un peu.
Est-ce que c'est Sainte Fernande, la martyre du 3e siècle ?
Bon, d'accord, on va tout de suite passer à la finale.
Non, mais s'il vous plaît, on m'a pas répondu. Qui c'est Fernande ?
C'est donc maintenant l'heure de la finale. Bon, alors étant donné qu'il y a une bonne réponse partout, je vais choisir au pif un couple sur cette table.
Sur cette table, c'est un peu osé, monsieur sexe, voyons.
Par exemple, Clémence et Mathias.
Excusez-moi. Pardon, mais ce n'est pas la règle du jeu, voyons.
Je ne connais pas ce monsieur.
J'ai eu le règlement intérieur et c'est pas
Mathias,
comme ça que ça se passe.
Attention, c'est parti.
Vas-y, ma chérie, vas-y. Mais...
Donc vous connaissez tous le principe, Clémence non. nous a donné plein d'informations sur elle avant de commencer l'émission. Mathias va maintenant tenter de retrouver ses informations. Mathias, quelle est sa radio préférée ?
France Inter.
Raté. Et quel est son mythe biblique préféré ?
Bethsabée.
Bonne réponse. Quel est son acteur préféré ?
Louis de Funès.
Fausse réponse. Sa chanteuse préférée ?
Stéphane de Monaco.
C'est une bonne réponse. Le plus gros fruit qu'on puisse y introduire.
Mandarine.
Ah ben ouais. Son livre de chevet.
La Bible.
Est-ce qu'elle pense que P égale NP?
Non.
La plupart des scientifiques sont d'accord sur ce point. Pour qui a-t-elle voté en 2012?
Valérie Giscard d'Estaing.
Consonne.
Voyelle.
Consonne.
A.
Voyelle. Consonne.
X.
Consonne.
V.
Consonne.
G.
Voyelle.
E.
Consonne.
V.
Voyelle.
G.
D'accord, vous avez 2 minutes pour trouver un mot là-dessus. En attendant, moi, j'espère que tout s'est bien passé pour ce jeu. Personne n'a gagné parce que de toute façon, Syntex, c'est tout pourri. N'oubliez pas d'aimer tout le monde et je vous dis à très bientôt. Plein de bisous tout partout, chers auditeurs.
Alors merci sexe.
Eh bien de rien.
Pour
de
l'animation
rien,
de ce jeu.
Un plaisir immense.
Oui, on sait. C'est un jeu qui a été sponsorisé par Durex, réduction sur les préservatifs à l'ENS de Lyon, avec le mot clé transistor.
Qui a pas été sponsorisé très cher parce que comme vous voyez c'était quand même bricolé. Hein.
Oh mais ça il faut pas le dire. Merci à vous d'avoir participé à ce jeu, Clémence, Marie et Mathias. Alors on va reprendre le cours normal de nos programmes et comme il est bientôt 15h et qu'on se demande le temps qu'il fait, c'est l'heure d'une petite météo. Une météo présentée par Marie, à qui je laisse la parole. Bonjour Marie.
Bonjour Clément. Hot, 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 hot stuff, comme disait Donna Summer. Il fera donc plutôt beau sur l'ensemble de la France cet après-midi. Du soleil est prévu à Perrache, à Bellecour et à la Croix-Rousse. Quelques nuages sur Gerland et Lieu-Vieux-Lyon. Et des averses attendues en fin d'après-midi à Guillotière. Les températures resteront malgré tout en dessous des normales de saison. Mais j'ai envie de dire, c'est tout le temps le cas et... Hein, la France ? Oui, bah j'y viens, deux minutes. Je disais donc beau temps pour la confluence et le reste du pays. Sauf pour la Bretagne, où le temps sera bien moche et pourri, parce que la Bretagne, c'est tout pourri, avec des températures avoisinant les moins 3 degrés Celsius cet après-midi, de la pluie attendue demain, des nuées de sauterelles en fin de semaine, et peut-être même la fin du monde dans un déluge de feu. Voilà, de rien, c'était gratuit. Non, allez, soyons sérieux. Entre la Bretagne et le Cotentin, comme entre Hollande et les manifestants, on observera un rafraîchissement des températures, jusqu'à 10 degrés de perdu. Évidemment, tout s'explique par la pénétration atmosphérique des couches nuageuses. En fait, c'est assez simple à comprendre. De grosses masses nébuleuses se rassemblent et se mettent en branle au-dessus de l'Atlantique, se déplacent vers un champ de haute pression. Quand soudain, une nouvelle perturbation tente d'arriver, c'est le retour de l'anticyclone des Açores. Les masses d'air se soulèvent et se réchauffent. Et tout finit en grosse orgie de cunilimbus. Détendez-vous, vous êtes sur FIP. Les températures maintenant, elles sont en hausse mais jamais assez. Surtout pour les mamies fachos qui votent Estrosianis. D'après Météo France, on aura cet après-midi 20 à Toulouse, 19 à Bastia, ah non ça c'est pas en France, désolé, 17 à Strasbourg et à Lille, moins 8 dans l'opinion publique, 18 à Paris, non ça non plus c'est pas en France, 15 à Rouen, 27 à Fort-de-France, 30 à Mamoudzou et 31 à Papété. Et on termine bien sûr avec la météo des plages. Où peut-on faire trempette en toute sécurité ? Je rappelle à tous nos auditeurs qu'il est nécessaire de se protéger soigneusement des rayonnements ultraviolets du soleil à l'aide d'une crème solaire à l'indice adapté. Alors donc, la météo des plages. Mer d'huile à Charleville-Mézières et à Metz. En revanche, le pavillon orange sera dressé à Nancy, donc évitez la baignade si vous le pouvez. À Montbéliard, mer calme, à peu agitée et des eaux à 24 degrés. Méfiance cependant à Oyonnax, où la mer sera chaude mais relativement agitée. Mer houleuse, là encore, avec 19 degrés à Annecy et Grenoble, enfin. Donc surtout, restez prudents. Encore la preuve qu'on peut dire complètement n'importe quoi dans un micro. Et sur ce, moi je vous laisse, il faut que je retourne faire du karaoké et bouger mon boule sur du Donna Summer.
Dans mon horoscope, il y a des chômeurs. Dans mon horoscope, il y a des moches. Des très moches. Dans mon horoscope, amour, ça dépend. Travail, ça dépend. Ça dépend des gens.
Et c'est l'heure de l'horoscope maintenant avec Jérémy. Rebonjour Jérémy.
Rebonjour à tous. Bélier, un mercredi tristement ordinaire. Le trigone Mars-Vénus contrarie chez vous les natifs du troisième décan et des troubles intestinaux mineurs mais un peu gênants sont à prévoir. Prière d'éviter les espaces clos et les nourritures épicées. Côté finance, cette journée occasionnera aussi pour vous quelques écoulements. Vous ferez des petites dépenses qui vous rapprocheront d'un ami perdu de vue. Taureau, il faut vous ressaisir. Votre vie sexuelle est complètement sordide et vous avez le teint blafard et entre nous, ce haut est moche et il vous boudine. Il y a des jours où on dirait que vous n'essayez même pas, Taureau. Sortez, allez voir du monde, je ne sais pas moi, mais faites quelque chose, bon sang. Gémeaux, et si vous passiez un peu moins de temps sur Instagram ? Les astres sont formels, Gémeaux. Tout le monde se fout du temps qu'il fait là où vous êtes. Et votre capacité à aligner les hashtags n'impressionne personne. Faites une cure d'austérité sur les réseaux sociaux, Gémeaux. Lisez des livres et revenez-nous quand vous aurez vraiment quelque chose à dire. Bisous. Lion, vous passerez la journée à sentir la transpiration et vous ne vous en rendrez même pas compte. Vierge, Tu étais assise juste en face de moi à la bibliothèque hier. Tu avais relevé tes cheveux en chignon, tu avais enlevé tes chaussures, tu as noté au critérium un pesant et poussiéreux volume et tu étais sublime. J'ai appris ton sinestro car je connais quelqu'un qui m'a renseigné. Écrit à Transistor qui transmettra. Balance, côté travail, vous réalisez qu'on est déjà le 17 mai et vous chercherez à planifier vos vacances d'été pour oublier. Scorpion, de légers troubles de l'érection chez vous ou un amant ruineront ce qui promettait d'être un agréable moment. Certains prétendent que l'appétit vient en mangeant, mais en l'occurrence ce sera sans remède. Alors n'insistez pas et retentez le coup dans un mois ou deux quand la conjonction Saturne-Mercure sera plus favorable. Sagittaire, la semaine n'était pas terrible, Sagittaire, mais vous aurez la chance aujourd'hui d'avoir pas moins de 2 matchs sur Tinder. Alors bien sûr pas avec des gens très agréables à regarder, mais entre nous ces temps-ci, vous ne pouvez pas vraiment espérer mieux. Alors foncez, Sagittaire. Capricorne, génial, un nouvel épisode de Game of Thrones est sorti. Mais pendant ce temps, votre mémoire, lui, n'avance pas. Et si vous repreniez un peu le sens des responsabilités, Capricorne ? Verseau, c'est déjà la 3e fois cette semaine que vous évitez avec embarras ce natif du bélier dans les couloirs de l'école. Ça commence à se voir, Verseau. Il faut apprendre à vous confronter à vos impératifs sociaux ou à dire franchement aux gens ce que vous pensez d'eux. Mais je sais bien que vous en êtes incapable. Vous n'êtes qu'une serpillière et vous pouvez avoir honte de vous, Verseau. Enfin, Poisson, le climat astral vous est très favorable, même si côté amour, un ex se rappelle à vous et que vous allez probablement céder. Vous croiserez dans le métro une SDF qui ressemble terriblement à votre mère et cela vous rendra bizarrement mélancolique. C'est tout pour moi, merci.
Merci Jérémy. J'ai envie de vous demander quel est votre signe tous. Jérémy.
Moi j'étais balance, côté travail, on prépare les vacances, c'est le 17 mai tout ça.
Très bien.
Je sais pas qui est scorpion mais méfiez-vous, hein, les problèmes d'érection.
Mathias.
Je suis capricorne, donc oui mon mémoire n'avance pas, merci de me l'avoir appelé.
Rémi.
Un capricorne sans mémoire, tout va bien.
Marie.
Une sagittaire, pas sur Tinder, donc ça va à peu près.
Corentin.
Je suis bélier, mais j'ai raté le début de l'horoscope.
Bélier, ce sont les troubles digestifs gênants.
Ah, très bien.
Donc, fais vraiment attention. Merci pour nous.
Et alors, moi, je suis très inquiet par contre, parce que, voilà, je crois que c'était moi. Oh, la bibliothèque, Jérémy.
La fierté favorée.
Mais maintenant que tu le dis,
ça coule de sang.
Et c'est ton chignon qui a fait tout. J'y peux rien, moi.
Ça transforme ma chevelure.
Ah, mais oui, mais
on
complètement. Complètement.
Écris quand même à Transistor, c'est moi qui reçois les mails.
Alors merci beaucoup pour cet horoscope. On va maintenant finir traditionnellement cet en ce moment avec le billet d'humour assuré par Corentin. Bonjour Corentin.
Bonjour Clément.
Et alors je crois qu'aujourd'hui tu voulais tirer un signal d'alarme. Que se passe-t-il ?
Bah oui Clément, je suis vraiment très inquiet. Une maladie se répand sur Mono et elle semble affecter tout le campus. Personne n'est épargné. Les biologistes, les géologues, les informaticiens, mais aussi les mathématiciens, les physiciens chimistes et les chimistes physiciens. Même si pour ces derniers on s'en fout un peu car comme chacun sait, la chimie c'est plus de la cuisine que de la science. Ouais. Je plaisante bien sûr. Mais je m'égare, revenons à notre épidémie. C'est un véritable carnage, elle fait tellement de victimes que le campus devient désert dès la mi-mai. Si vous n'avez pas peur d'attraper la maladie, allez faire un tour au niveau des labos de bio, cet endroit qui autrefois respirait tant la vie et le bonheur et qui ressemble maintenant à une succession de couloirs de la mort ou à une scène de Resident Evil. Mais si, vous savez, ce film sur des scientifiques qui développent un virus capable de transformer les humains en zombies et qui n'arrivent pas, comble de malchance, à endiguer le virus qu'ils ont maladroitement laissé échapper, condamnant ainsi l'humanité. Ça va les biologistes ? Je ne veux surtout pas vous mettre la pression, hein. Bon, en parlant de biologistes, petite pensée à Baptiste et Léo, membres du bureau de Transistor, qui nous ont quittés récemment. Coucou là-haut, j'espère que tout va bien. Bon. Mais l'origine de cette maladie reste encore inconnue. Certaines études rapportent plusieurs points intéressants. Premier point, on a constaté que les plus vieux étaient touchés bien plus tôt que les primo-arrivants. Personnellement, j'ai connu des gens en deuxième année de master qui sont partis depuis février, paix à leur âme. Deuxième point, deux catégories de personnes semblent immunisées contre la maladie. Les agrégatifs et les adhérents à cette sombre secte dont vous avez tous forcément entendu parler, la LSH.
Ah bah oui.
Bien sûr, ces deux catégories s'intersectent, mais allez comprendre pourquoi. Ils ne sont pas affectés par la maladie. Certains avancent la thèse selon laquelle les agrégatifs ne seraient pas humains et ne seraient donc pas touchés. Ils s'appuient sur des observations précises selon lesquelles on les verrait se regrouper entre eux le soir, non pas pour sortir, se détendre ou faire la fête, mais pour partager jusqu'aux heures les plus matinales une activité qu'ils nomment « travail » en deux mots. Allez savoir ce que c'est.
Pour les autres, adhérents de la secte LSH, c'est encore plus obscur, car difficile de savoir ce qu'ils font, ces illuminés. On rapporte qu'ils voueraient un culte à une divinité qu'ils appelleraient le mémoire.
Ah oui.
Et qu'ils semblent craindre au plus haut point. Peut-être cette divinité existe-t-elle réellement et elle les protège de la maladie ? Bon, car en effet, certains membres de la LSH, peut-être parce qu'ils sont encore néophytes, ne vouent pas ce culte à la divinité mémoire et sont eux aussi condamnés, contaminés par la maladie. Notre chère trésorière de Transistor compte parmi ces rares cas. Pauline, si tu nous entends ?
Et elle nous entend, quelque part.
Personne n'y croit.
Ah, une dépêche de dernière minute m'informe dans l'oreillette que nous en savons un peu plus sur la maladie. On hésite encore entre deux possibilités, Ebola ou le stage de fin d'année. Bon, si vous voulez mon avis, pour Ebola, c'est peu probable. Le stage de fin d'année est hautement plus contagieux. Bon, que ce soit l'une ou l'autre de ces deux maladies, voici des recommandations de sécurité. 1. Si vous habitez mono, vous êtes déjà condamné, donc restez-y pour ne pas propager l'épidémie. 2. Ne vous approchez plus des habitants de mono, à moins que vous en soyez déjà un. Et 3. Agenouillez-vous, mes enfants, et priez pour le dieu mémoire, ou bien inscrivez-vous à la congrégation pour l'année prochaine.
C'est moi, c'est mon cas.
Oui.
Oh, mémoire et agrégation, agrégation chérie. Oh oui.
Doublement protégé.
Merci Corentin. Alors j'espère que vous allez bien, chers auditeurs, maintenant que vous savez quoi faire. Et il est 15h, 15h01 même. Et avant de retrouver les ions des oreilles, c'est l'heure du Flash Info.
Nouvelle journée de mobilisation aujourd'hui, mardi 17 mai, à l'appel de 7 syndicats et des organisations de jeunesse. Des grèves reconductibles sont à prévoir chez les routiers, les marins, les facteurs, la SNCF et à Paris Aéroport. À Toulouse, où a lieu une forte mobilisation, un mur a été érigé devant la permanence du député socialiste Christophe Borgel. De nombreuses mobilisations sont à prévoir, notamment à Paris, où un cortège a été prévu dès 14h de la place de l'école militaire jusqu'à la place d'Enfer Rochereau. D'autres mouvements sont prévus dans toute la France, notamment à Nantes, à Rennes, qui a été le théâtre de violents affrontements la semaine dernière, à Marseille et en Normandie, où le mouvement est très suivi, à Caen, Rouen, Le Havre, Évreux et Alençon. Donc une grève avec notamment les chauffeurs routiers menés par les syndicats Force Ouvrière et la CGT qui ont aussi prévu plusieurs blocages dans toute la France. Sur l'A1 notamment, une opération escargot a débuté à 8h entre Dourges et Arras. C'est notamment aussi la ville du Havre qui a été fortement touchée par le blocage d'un dépôt total. En marge de la contestation, la préfecture de police de Paris a fait parler d'elle en empêchant certaines personnes d'aller manifester aujourd'hui dans le cadre de l'application de l'état d'urgence qui permet d'assigner à résidence une personne pendant un temps donné. Aujourd'hui, aussi, Anne Hidalgo a déclaré qu'elle promettait des bains dans la Seine au cas de JO en 2024. Et pour finir, le pape François a donné une interview exclusive au journal La Croix où il déclarait qu'il fallait parler des racines au pluriel de l'Europe et qu'il redoutait la tonalité qui peut être triomphaliste ou vengeresse, voire coloniale, de tels propos, mais où il considérait que la France exagérait sa laïcité et que si une femme voilée voulait porter le voile, elle devait le pouvoir. Nadine Morano, députée européenne, a réagi à ces propos en considérant que le pape n'avait pas une connaissance suffisante du fonctionnement de l'Europe.
Merci Mathias pour ce flash info. Il est 15h03, vous êtes bien sur Transistor. C'est l'heure de retrouver Rémi, Héloïse et Mathias pour Les yeux ont des oreilles.